Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Thérèse Vininger pour son roman Le disparu de Brun, publié en auto-édition, et Patrick Vanet pour son roman historique L'Option, publié chez L'Harmattan. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle La ville jumelée. Bonjour messieurs, dames, vous allez bien?
Bonjour, bonjour madame.
Bonjour.
Alors nous allons commencer avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, Le disparu de Brun est un roman qui tourne autour d'une disparition.
C'est le thème.
Oui. Mmh. Alors parlez-nous de ce disparu. Par qui tout commence?
Oui, bah alors je vais vous raconter tout simplement comment l'idée m'est venue de ce disparu, tout simplement en me baladant sur l'étang, au bord de l'étang de Brun.
Balade. Sur Seille, on parle.
Oui, le Brun-sur-Seille, il faut préciser. Mmh. Balade enchanteresse pour moi. Mmh. Tout y est, la nature, l'eau. Et j'y allais par le passé, il y a très longtemps, avec mes enfants qui étaient petites à l'époque. Et en poursuivant ce chemin le long de l'étang, je suis tombée sur le pavillon du garde forestier. Mmh. Un endroit complètement isolé qui m'a d'abord interpellée et glacée à la fois. Car c'est un pavillon complètement isolé dans la forêt. Il n'y a rien autour, c'est un silence de cathédrale qui vous attend. Et il y avait cette petite pancarte « Miel à vendre » qui était fort sympathique, ce qui m'a donné l'audace de sonner à ce pavillon. Et un couple, le garde forestier et son épouse, sont sortis. Et c'est là où je me suis approvisionnée en miel. Et c'est une promenade que j'ai renouvelée régulièrement. À l'époque, je n'écrivais pas du tout. Je n'envisageais même pas d'écrire. Mais quand j'ai vu l'endroit, j'ai dit ça, j'en ferais bien un roman si j'écrivais.
D'accord.
Voilà.
Et donc, votre roman débute en fait par la disparition de ce garde forestier.
Oui, oui, oui. Bon, le thème, dans tous mes livres, je récupère un thème de société. Celui-là, c'était la disparition. Ces disparitions qui vous interpellent, qui interviennent du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, un être peut disparaître. Mm-hmm. On n'a pas d'explication et ça plonge la famille dans la tourmente. Tout le monde s'interroge et on n'a pas de réponse. C'était un peu le thème de ce livre.
Oui. Alors, quand le papa disparaît, sa fille, donc Jacqueline, a 8 ans.
Oui.
Et en fait, elle ne s'est jamais remise de la disparition de son père.
Exactement, exactement. Elle est restée traumatisée de cette disparition parce que pour elle, son papa ne serait jamais parti sans lui dire au revoir.
Oui, oui. Alors, est-ce que les blessures d'enfance sont les plus difficiles à surmonter?
Oh, très certainement. Ce sont les vraies cicatrices, celles-là. Oui. Elles restent indélébiles.
Oui, oui.
Elles marquent profondément la personnalité de l'individu. Et oui, on s'en remet difficilement, ça c'est certain.
Oui. Alors, il faut dire que Jacqueline n'a pas vraiment eu de chance non plus. Elle a eu une famille, enfin, elle a eu quand même une vie un petit peu compliquée déjà. Mm-hmm. Est-ce que il y a certaines personnes qui sont prédestinées à subir les coups du sort?
Disons qu'elle a eu un démarrage dans la vie difficile parce qu'elle a perdu sa maman très jeune,
oui.
Vu que la maman ne s'est pas remise non plus de la disparition de son mari.
Mm-hmm.
Et elle s'est lancée dans la vie active rapidement. Elle a fait une belle rencontre qui a bien meublé sa vie.
Mmh.
Et les faits divers que je relate d'ailleurs dans le roman sont authentiques. Ils se sont réellement produits à Nancy.
Ah bon?
Je me suis basée sur des faits réels.
D'accord.
Voilà, j'en dis pas plus parce que je ne veux rien révéler.
Je me doute bien. Je me doute bien. Alors Jacqueline, c'est une femme de 58 ans qui s'ennuie un petit peu.
Non, oui.
Alors qu'est-ce qui fait qu'elle décide un jour de vouloir savoir ce qui est arrivé à son père 50 ans après en fait?
Eh bien, elle se retrouve seule avec sa dame de compagnie. La lecture commence à l'ennuyer. Parce qu'elle a toujours gambergé sur cette disparition.
Oui.
Et tout à coup, elle a senti peut-être la maturité de l'âge, parce qu'à 58 ans, c'est déjà pas mal.
Oui.
L'idée lui est venue d'écrire ses mémoires. Dès l'instant où elle pense écrire ou vouloir faire écrire ses mémoires, c'est bien pour faire un retour en arrière sur cette disparition. C'est profondément ancré dans son moi profond, mais elle veut faire ressusciter ce mystère.
Parce que c'est vrai que ça fait long, je veux dire...
58 ans. Oui. Mais elle a eu une vie quand même bien, bien meublée.
Oui, bien sûr.
Une belle vie, heureusement qu'il y a eu cette petite parenthèse enchanteresse quand même. Mais elle en reste aussi profondément meurtrie parce que son mari lui manque. Elle est désœuvrée. Elle passe par une période de vie très désœuvrée. Elle vit confinée avec sa dame de compagnie, sans avoir de grands besoins de sortie. Elle ressasse jusqu'au moment où elle décide de se sortir de ce marasme.
Mmh. Alors heureusement, elle est bien entourée par sa femme de compagnie. Mmh. Corinne, c'est un beau personnage de femme.
Oui, bien, pertinente.
Oui.
mine de rien, je trouve que c'est elle qui dicte pas mal les faits et gestes des autres personnages féminins. Elle les embarque un petit peu, oui. Elle les force à un certain raisonnement, le sien, mais qui n'est pas dépourvu de sens.
Oui, mais en même temps, bon, elle fait preuve de beaucoup de patience et d'abnégation.
Ah là là, Jacqueline, c'est quand même une forte personnalité, il faut le reconnaître.
Oui, oui, c'est pour ça que c'est un petit peu ambivalent, parce qu'on se dit, de temps en temps, elle paraît complètement démunie, et en même temps, elle a son petit caractère, elle mène un petit peu son entourage. Hein.
Complètement, donc, complètement. Jacqueline est parfois déboussolée.
Oui. Alors, la jeune Alicia va rentrer dans la vie de ces deux femmes par le biais d'une petite annonce.
Voilà. Oui. Alors, on me fait la réflexion, mais c'est plus l'époque des annonces. Et pourtant, moi, je suis fidèle à lire dans mon journal. Chaque fois qu'il y a des annonces, je me penche dessus. Et ça a toujours meublé un petit quart d'heure tous les matins, lire les annonces. Pourquoi ? Comme pour Alicia, le thème sur un prochain roman. Vous trouvez de tout dans les annonces et ça interpelle. Et ça m'a permis de me lancer dans une aventure qui part d'une annonce, parce qu'à partir d'une annonce, tout peut arriver.
Oui,
surtout si on y répond.
Oui, c'est vrai. J'aime bien l'idée qu'une fille peut totalement changer de trajectoire, ce qui va être le cas grâce à une petite annonce, à répondre à une petite annonce.
Oui.
Donc Alicia va répondre à l'annonce de Jacqueline qui demande quelqu'un pour l'aider à rédiger ses mémoires.
Oui, oui, oui.
Et donc elle va s'impliquer complètement dans ce...
Ah, d'autant plus que ça l'interpelle, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire de Jacqueline, tout l'interpelle, les disparitions, les braquages, enfin il y a beaucoup de choses qui interviennent. Alors, elle se dit, oui, mais où j'arrive, où je suis ? Mais au départ, elle pensait simplement des petites mémoires de rien du tout, mais elle se rend compte que c'est tout à fait autre chose.
Ouais. Alors, votre roman se situe beaucoup, à Nancy bien sûr, mais beaucoup, à Brin-sur-Seille. Mm-hmm. Alors, c'est le village natal donc, de Jacqueline. Mm-hmm. J'aime bien la devise de cette ville.
Oui.
Alors, c'est brin je suis, arbre je serai.
C'est joli comme
c'est
tout.
C'est joli comme
ah,
tout.
Ah oui, 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 il ne fallait pas que je la rate.
Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est une très jolie devise, mais en plus, quand on connaît ce qu'a subi Brin-sur-Seille pendant la guerre de 14, en fait, il a été complètement détruit,
ce village. Oui, tout à fait, rasé. Et puis, cette forêt renommée, la forêt de Brin-sur-Seille est très renommée. C'est une des plus belles. Est mystérieuse à souhait. Oui. Elle est profonde, elle m'a marquée lorsque je m'y suis baladée, et c'est pour ça que je voulais faire renaître à la fois les bruits et les odeurs de cette forêt.
Oui, oui. Alors moi, j'étais d'autant plus sensible que mon grand-père était chef de gare à Brin-sur-Seille il y a très très longtemps, bien
formidable.
Sûr. Donc ça m'a fait un peu sourire, quoi.
Oui, oui.
Voilà, ça m'a rappelé des choses.
Et puis il y a une voie cyclable aussi, très intéressante pour les cyclistes.
Oui, peut-être ça, je ne suis pas trop concernée par la question, mais je le pense, très sincèrement, que ça doit être superbe comme balade.
Alors vous écrivez, les souvenirs ne se perdent jamais, ils somnolent. Vous croyez vraiment que l'on peut retrouver tous ces souvenirs si on fait l'effort de le faire ?
Je n'ai pas compris votre question.
Vous avez écrit, les souvenirs ne se perdent jamais, ils somnolent.
Alors, ne se perdent jamais, je ne me rappelle pas cette phrase.
C'est pas 147.
Oh. De se perdent jamais, je vois
oui.
pas.
Oui, ils somnolent, c'est Jacqueline qui dit ça. À un moment donné.
Bon. Très belle phrase.
Oui, oui. Oui, je la trouve bien. Je ne vais pas dire que je suis surprise. Bon, bien écoutez, ce père, elle ne l'a jamais oublié. Il reste ancré en elle.
Oui.
C'est son souvenir qui lui tient, mais viscéralement. Et elle veut le faire renaître, elle veut le faire revivre à travers.
Oui, mais elle avait quand même occulté pas mal de souvenirs quand même.
Ils ressurgissent progressivement.
C'est ça, oui.
Justement,
oui.
Vous savez, des souvenirs, on les croit loin. Mais il suffit de creuser un tout petit peu et ressurgir spontanément.
Pas toujours, ça.
Oh, écoutez, dès l'instant où vous vous plongez à rechercher vos souvenirs d'enfance, j'ai écrit un livre qui s'appelle Intuition et je suis repartie très très loin en arrière.
Oui.
J'ai été sidérée de la facilité avec laquelle les souvenirs ressurgissaient.
Mm-hmm.
Et je pense que les souvenirs, ce qu'elle a vécu étant petite, ça ne s'est jamais effacé. Je pense que c'est ça. Il y a un point de suspension qui est resté dans sa vie. Elle veut vraiment franchir ce point de suspension.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce papa chéri ?
Oui. Alors, en même temps, vous faites dire à Jacqueline, il est des mystères comme des maladies. Mieux vaut les taire plutôt qu'affronter la suspicion dans le regard des autres.
Mm-hmm.
Alors, elle préfère quand même affronter le regard des autres.
Je pense que, vous voyez là, vous sortez des phrases du contexte de mon livre, quand je suis dedans, c'est tout simple. Ça fait longtemps que je l'ai écrit, ce livre, et je me dis, j'ai écrit ça.
Désolée, je ne voulais pas vous...
C'est très drôle, c'est très bien, ça surprend de les recevoir comme ça.
Oui.
Non, bon, bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre en réalité.
D'accord. Parce qu'en fait, quand elle commence à fouiller avec Alicia et Corinne à Brin-sur-Seille, ça réveille quand même des souvenirs aussi chez les autres habitants.
Elle s'interroge à la fois sur la vie de son père, a-t-il vraiment, suivant les dires de sa mère, été ce qu'il a été, c'est-à-dire que sa mère lui en fait un schéma qui n'est pas des plus réjouissants. Alors, est-ce que ce père a été cet homme-là, ou est-ce que c'est ce père affectueux et tendre qui lui faisait des petits signes avec sa lampe de poche tous les soirs lors de sa balade? Et puis, fréquenter les anciens du village, ça fait ressurgir également des souvenirs qu'elle n'avait pas forcément en mémoire, mais dans la mémoire des autres. Elle cherche justement dans la mémoire des autres ce qui lui manque.
Oui. Parce qu'elle avait aussi un frère qui avait donc des amis, et certains de ses amis sont restés à Brin-sur-Seille.
Voilà, sont restés à Brin-sur-Seille, et le frère s'est échappé, et elle lui en a voulu longtemps, ainsi que sa mère, parce que dans les moments les plus difficiles, il est parti.
Oui. Et on sent quand même un malaise parmi certains des amis du frère.
On sent qu'il y a des non-dits, qu'il y a quelque chose, des silences qui sont lourds de vérité.
Oui.
Elle en a peur, mais elle continue d'avancer.
Oui.
C'est Alicia qui va faire le plus gros du travail.
Bien sûr.
C'est elle qui va entraîner avec elle sa petite troupe.
Oui.
Et pour aller au-delà de ce qui les attend.
Bon, puis il y a aussi une belle histoire d'amour, bien sûr.
Ah bah, sans histoire d'amour, celle de la vie.
Oui, c'est ça. Alors justement, en parlant d'amour, sur la page de garde, vous citez la phrase de Jean Cocteau, « Écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, ce n'est que de l'écriture.
Mmh, »
Donc vous écrivez par amour?
Ah oui.
Oui.
Ah oui, complètement.
Par amour de quoi? De l'histoire
De l'écriture.
De l'écriture.
L'histoire, elle vient progressivement. C'est pas... Disons que lorsque je commence une histoire, je ne sais pas comment elle se termine.
Ah d'accord.
Voilà. Elle se crée tout au long. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. L'aboutissement, où je vais, j'en sais rien. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est cet amour de l'écriture qui vous fait avancer.
Oui, parce que certaines personnes ont déjà le plan bien précis
en
tête.
Le thème, la disparition, je l'avais.
Oui.
Mais pas du tout le reste de l'histoire.
D'accord.
Les personnages se créent tout seuls au fur et à mesure.
Alors, vous avez déjà publié un certain nombre de romans. Vous en avez un autre en cours?
Pas du tout. C'est le vide, c'est le néant.
Ah, c'est le vide. Ah, d'accord.
Là,
il faut relire les petites annonces.
Je vais me replonger dans
les chats écrasés, tout ça. Il y a de quoi faire.
Mais sincèrement, ce dernier roman, lorsque je terminais l'avant-dernier Ivresse de la vie, il était déjà là.
Ah, d'accord.
Et il a été interrompu par les événements qui ont fait que je ne pouvais plus écrire. Et lorsque j'ai repris l'écriture, instantanément, il remontait à la surface.
D'accord.
Voilà.
Et donc là, vous attendez l'illumination?
Pas du tout.
Pas du tout.
Je vis sur les retombées de celui-là.
D'accord.
Et c'est grisant. Pour le moment, je me laisse griser. J'ai dit, en définitive, quand on écrit, on est seul.
Oui, bien sûr.
On est seul avec ces personnages qui vous enrichissent.
Bien sûr.
On les adore, ces personnages. Et tout à coup, quand on crie et on quitte ce livre, les personnages vous manquent. Vous vous sentez seul, c'est exactement ce que je vis. Et tout à coup, il y a les salons qui arrivent. Heureusement, parce que j'ai le retour des lecteurs qui viennent me parler de ce roman que j'ai abandonné. Et c'est ça qui est extraordinaire.
D'accord, bon. Merci. Alors nous revenons après Juliette Armanet qui nous interprète Flamme.
Chansons d'amour au piano toutes mes gammes, au style tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Marie-Thérèse Vinager, venue nous présenter son roman Le disparu de Brun, publié en auto-édition, et Patrick Vanet, venu lui pour son roman historique L'option, publié chez L'Harmattan. Avant de parler de l'option, John Blyth va nous enchanter, peut-être, rire ou pleurer, nous faire pleurer, je ne sais pas, avec la lecture de sa nouvelle La ville jumelée. À toi, John.
La ville jumelée. Lakehurst. Nuit du 7 mai 1937. Pour cette mission, mon nom de code est Kevin Jones. La nuit étoilée s'annonce calme et douce. Seuls quelques petits nuages blancs tentent d'obscurcir le ciel pendant que je me laisse glisser lentement sur les haubans en direction du cockpit. Le désert du New Jersey, lui, sous la lune, en dessous de moi, quelques centaines de mètres plus bas. Mais insensible au vertige, je poursuis ma course. Encore quelques brasses sur le cordage et je serai à hauteur des yeux des pilotes, espérant qu'ils se soient déjà endormis. Normalement, le puissant somnifère que j'avais glissé subrepticement dans leur verre de bière tout à l'heure devrait avoir fait son effet. Oui, se faire embaucher comme serveur n'avait pas été trop compliqué avec les faux états de service élogieux que m'avait procuré l'intelligence service américaine. Un rapide coup d'œil par un trou de la ventilation me confirma que la potion soporifique avait bien fonctionné. Un violent coup de pied et je suis volé au sol la fenêtre du fond qui chute bruyamment à l'intérieur du cockpit. Pas un mouvement de la part des pilotes endormis, l'affaire est dans le sac. Justement, le sac dans lequel se trouvaient mes explosifs se trouve solidement arrimé à mon dos. Alors, je les dissimule habilement, ces derniers, tout au fond, sous le tableau de contrôle. Les attaches vérifient la minuterie. Oui, s'éclipser discrètement de la salle de restauration située juste à côté pendant mon service, se glisser par les trappes d'aération avait été un jeu d'enfant. 20 à 30 minutes. C'est le temps que j'estime suffisant pour m'équiper du parachute laissé dans ma cabine, à l'autre bout du dirigeable, et pouvoir quitter le Zeppelin LZ-129 Hindenburg, sain et sauf. Les manœuvres pour pouvoir atterrir à Lakehurst allaient commencer en théorie d'une minute à l'autre et les somnifères cessaient bientôt de faire leurs effets. Oh, les pilotes pensant qu'ils sont juste un peu assoupis et de mon côté j'avais remis en place tant bien que mal la vitre dans ses gonds. Réveillant sursaut en retard, ils vérifient en proie ces détails tout occupés qu'ils seront par les préparatifs de l'atterrissage. Ah, depuis plus de 14 mois, le dirigeable d'Hitler damnait le pion à tous les ingénieurs américains, poussait l'arrogant jusqu'à établir une ligne directe régulière, Berlin, New York, brandissant le symbole de la puissance du régime nazi. Ouais, deux fois plus vite qu'un bateau au-dessus de l'Atlantique. 246 mètres de long sur 46 mètres d'envergure, le LZ-129 Hindenburg pouvait foncer à une vitesse maximum de 135 km. Poussé par les 4800 chevaux de ses quatre moteurs, non, ça ne pouvait plus durer. Ce 6 mai 1937 devait être sa dernière traversée, d'autant plus que de nombreux dignitaires nazis en étaient les passagers. Ah si j'avais conscience également qu'il y avait quelques femmes à bord de l'aéronef, je restais concentré sur ma mission, insensible à la pitié. Les services secrets américains m'avaient recruté pour ça, ainsi que ma débrouillardise, mon sens de l'improvisation. Ouais, une chance sur deux de s'en sortir cette fois-ci, pensais-je, en pressant le pas dans les coursives. Voyons, le dirigeable navigue dans les airs par environ 300 ou 400 mètres d'altitude. Mon parachute va mettre quelques secondes pendant lesquelles je vais tomber comme une pierre, puis s'ouvrir enfin et freiner alors ma chute. Je chassais rapidement l'idée que j'aurais pas dû ce soir manger autant cette délicieuse choucroute concoctée par le grand chef cuisinier Hans Bockenstein, qu'elle est bien trop malourdie. Hein. Ma mère, d'origine alsacienne, m'avait toujours dit que ma gourmandise me perdrait. Mais non, Kevin Jones allait s'en sortir comme toujours, comme lors de toutes ses missions, qu'elles soient aux USA, en Allemagne ou en France. De Londres, à Berlin, il avait toujours échappé aux mains des flics, des soldats, de la police secrète de chaque pays après ses opérations louches. Chaque fois, retour au bercail, la vie calme de commercial en vêtements, fourrure, en attendant le signal. Depuis sa prime jeunesse, dans le fond des Vosges, il avait franchi tous les caps. Remarqué par les services de la préfecture lors des manifestations syndicales agitées, recruté ensuite par les services de police de Paris et puis envoyé à l'essai à l'ambassade de France à New York pour faire quelques petites sales besognes que se glisseraient peu à peu dans l'univers glauque des agents doubles, ensuite vers le FBI américain et aujourd'hui pour le compte de l'intelligence service.
dans cette mission sur le dirigeable Hindenburg. Mon vénéré père fut adjoint au maire dans une toute petite ville de l'Est de la France. Et durant son mandat, au sortir de la guerre dans les années 60, après avoir beaucoup voyagé, nous y disait-il, durant sa jeunesse, il montra un zèle particulier. Un zèle particulier pour faire jumeler notre cité déodacienne avec la ville allemande de Friedrichshafen. Bah, cela nous avait toujours intrigués de sa part, lui, qui ne parlait pas allemand, mais plutôt anglais, et en plus avait été fait prisonnier 4 longues années par ceux-ci, durant la guerre. Mais, après tout, le rapprochement des peuples français et allemands était bien dans l'air du temps dans les années 60, et puis, les voyages forment la jeunesse autour des séjours linguistiques, et ma foi, allez, pourquoi pas. Quelques mois après son décès, je découvris dans le tiroir de son bureau un joli petit carnet vert à spirale, rempli de sa belle écriture avec des pleins, des déliés. Dans ce dernier se trouvait glissée une vieille photo énigmatique de l'inauguration du Zeppelin Hindenburg, ainsi qu'une autre photo de presse du même dirigeable détruit, avec quelques spectateurs à ses pieds calcinés et accompagnés d'un entrefilet datant de mai 1937. Friedrichshafen était l'endroit où toutes ces énormes montgolfières Zeppelins avaient été construites avant-guerre. Aussi, intrigué, je me plongeai dans la lecture du carnet où je découvris le récit hallucinant de son sabotage et de sa double vie. Dans l'entête de ses écrits, il y avait une vieille enveloppe jaune, racornie, plutôt petite, et, à ma grande surprise, marquée à mon nom. Elle racontait cette histoire incroyable, venant de ce petit monsieur rondouillard, peu sportif en apparence et très âgé à présent, mais toujours affable et sympathique, qui était mon père et que j'adorais. Si tu lis ce récit, fiston, ne cherche pas le pourquoi de mon parcours et pourquoi je vous en ai jamais parlé à ta mère et toi. L'itinéraire d'une vie secrète est parfois compliqué, et ce, quelle qu'en soit la vie amoureuse ou familiale. Oui, ce fut ma vie avant de rencontrer ta mère, ce fut la mienne, et je ne regrette quasiment rien de cette folie, de cette folle époque. Excepté peut-être la dernière affaire, après laquelle j'ai décidé d'arrêter tout net. Dans cette opération secrète que j'ai menée, je ne sus que plus tard qu'il y avait aussi 13 petits-enfants de ton âge, et que la plupart sont morts ou blessés dans ce malheureux accident. Je m'en suis voulu toute ma vie, et à travers mon jumelage avec Friedrichshafen, c'est un peu de leur pardon que je suis venu quémander à tous ces enfants. Alors, pardonne-moi à toi aussi, sois heureux, mon fils. Je m'emparai de la coupure du journal New York Morning que je défroissais sur la table du salon. Le titre principal claironnait. Catastrophe sanglante hier au petit matin. L'énorme dirigeable Hindenburg s'est enflammé de l'avant et une fuite d'hydrogène fit que tout s'est embrasé. Pas moins de 36 morts et 112 blessés, plus ou moins graves. Il ne reste plus rien du prince des airs. Poussé par mon instinct, je saisis alors une loupe grossissante pour examiner les détails de cette photo. Sur le Zeppelin Hindenburg gisant au sol, ce 7 mai 1937. Dans le coin gauche, parmi les badauds réunis sur la photo, je ne fus pas surpris de reconnaître un petit monsieur, rondouillard et peu sportif, qui regardait les dégâts avec consternation, semblait ressembler étrangement à mon père.
Merci, John. On a pas ri.
Non, c'est très beau.
Alors, pour nous mettre dans l'ambiance du roman de Patrick, voici Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, mis en musique par Océane Cudot. Alors, rappelons que le manuscrit autographe du poème, daté d'octobre 1870, est conservé à la British Library.
Dans l'herbe sous la
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Marie-Thérèse Vinager, venue nous présenter son roman Le disparu de Brun, publié en auto-édition, et Patrick Vanet, venu nous présenter son roman historique L'Option, publié chez Harmattan. Alors Patrick, dans votre biographie, il est précisé que vous partagez maintenant votre temps entre Lorraine et Périgord et que vous vous consacrez à l'écriture et à la musique. Alors avant d'aborder votre facette écrivain, vous voulez bien nous parler de votre facette musique ? Vous jouez d'un instrument ?
Oui, enfin tout moi j'essaye. Donc il y a quelques années, une trentaine d'années, j'avais voulu démarrer le piano, un peu plus maintenant même, presque 40 ans. Et puis bon, la vie faisant que les enfants arrivent, le travail et ainsi de suite, démarrer à cet âge-là c'était un peu compliqué, donc j'ai progressivement laissé tomber. Je m'étais toujours dit que le jour où je partirai en retraite, je ne ferai pas que passer devant le piano, je m'arrêterai et je me mettrai devant le piano. Et j'ai repris il y a 3 ans.
D'accord.
Et j'essaye d'en faire tous les jours.
Et ça vous plaît bien ?
Oui, tout à fait, oui. Je ne suis pas déçu du tout.
Ouais, c'est parfait. Alors L'Option est votre premier roman et a pour cadre la période 1870-1872. Pourtant, vous commencez avec un premier chapitre intitulé « Par où tout finit » et qui se situe, lui, en novembre 1989. Racontez-nous.
Alors l'idée, c'est je vais écrire une saga qui raconte l'histoire du siècle, mais pas le 20e siècle, le siècle entre 1870 et 1989. La chute de Berlin, c'est pas un scoop ce que je vais dire, mais la chute du mur de Berlin, c'est un héritage de la deuxième, puis de la première, et ainsi de suite. Et donc, quelque part, une des racines de la chute du mur de Berlin, c'est la bataille de Gravelotte. C'est-à-dire, c'est la guerre de 70, quand les Français ont perdu face aux Prussiens, et que le sentiment de revanche, qu'on a largement cultivé, bien évidemment, a commencé à s'instaurer, qui a fait qu'à un moment donné, on est parti dans une escalade. Et alors, pourquoi 1989 ? Parce que je pense que c'est une période que j'ai vécue, tout simplement, ça commence par là. Et ensuite, je pense que vraiment, on a clos un chapitre. Alors, à l'époque, certains historiens disaient même que l'histoire était terminée. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais en fait, on avait vraiment clos un chapitre pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, pas forcément mieux, bien évidemment.
Ouais. Et en plus, ce n'est pas si fini que ça, en ce moment.
C'est ça, tout à fait. C'est justement pas... Mais le par où tout finit, c'est par où mon histoire se termine.
Voilà, c'est ça, oui. Alors, une grande partie du roman se situe en Moselle, et plus particulièrement à Metz, là où vivent les Weber. Alors, il y a Charles, le père, Marie, la mère, et les 3 enfants, Guillaume, Jean et Mathilde. Alors, présentez-nous cette famille qu'on va suivre,
bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, c'est une famille de grands bourgeois, très grands bourgeois, donc banquiers. Alors, le père est donc issu d'une famille très pauvre au départ. Son père lui-même était ouvrier paysan. Et il a profité. Son père est parti à Paris en 1789, le jour de l'ouverture des États généraux. Et il a grandi à Paris et il est devenu fournisseur aux armées. Donc, il a fait fortune en devenant fournisseur aux armées. Et puis après, donc, il a ouvert une banque. Et le fils, Charles, donc, qui est le père de la famille que je vais suivre, a repris l'héritage familial et dirige d'une main de fer la banque.
Pas que la banque, d'ailleurs.
Pas que la banque, la famille, dirige tout le monde. Alors après, il a été bien aidé par Marie, sa femme, qui est une héritière, elle aussi, et qui a apporté beaucoup d'argent. D'ailleurs, Marie est principale dans le capital. C'est-à-dire qu'en fait, il peut diriger tout ce qu'il veut. À un moment donné, c'est quand même elle qui décide. Et d'ailleurs, on verra que c'est un peu d'importance. Puis ensuite, il a 3 enfants, donc... un fils aîné qui ressemble au père comme 2 gouttes d'eau.
Oui. Un peu plus flemmard, peut-être. Parce que le père, on ne peut pas lui...
Ah, le père est travailleur. Le père est travailleur. Ça, mais oui. Le fils, je dis à un moment donné que c'est un couche-tard, lève-tard.
Voilà, donc, il ne reste plus beaucoup de temps.
Il prend le temps de vivre.
Largement, oui. Il prend le temps de vivre. Et puis en plus, il n'a pas de problème d'argent et ainsi de suite et tout. Et donc lui, dans toutes les grandes familles bourgeoises, le fils va être l'héritier. Le second, qui est le héros principal de ce livre, qui s'appelle Jean. Donc le premier, c'est Guillaume. Le second... lui, il a la chance d'être bon à l'école. Et quand on est seconde famille dans une famille de bourgeois, il faut impérativement épouser une héritière qui va renforcer la fortune familiale. Et 1870, c'est l'époque du développement de l'industrie, de la sidérurgie. Alors, c'est pas un hasard si je parle de la sidérurgie, bien évidemment. Et donc, il est promis à épouser, malgré, même si on ne lui a pas demandé son avis, épouser une héritière des forges de Hayange. Bon. Et puis la petite dernière, Mathilde, qui n'a que 16 ans, donc à 16 ans, une femme, une jeune fille, on ne lui demande rien, et on lui demande juste d'être gentille, de sourire, et donc voilà, c'était tout. Voilà les trois personnages.
Et arrive la guerre de 1870 pour des motifs apparemment assez futiles quand on regarde la dépêche d'Ebs, mais derrière, il y a quand même... Il y a un fond beaucoup plus, je veux dire, solide.
Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, depuis à peu près une dizaine d'années, Bismarck veut donc développer la puissance allemande sur le continent. Il y a eu la première bataille avec les Autrichiens, donc la bataille de Sadova, dans le cadre de la conquête des duchés du nord de l'Allemagne. Il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire du Luxembourg. C'est-à-dire qu'en 1867, à un moment donné, Napoléon III voulait s'emparer du Luxembourg et en gros, Bismarck lui a dit bah, écoutez, ok, prenez le Luxembourg, mais vous me foutez la paix en Europe centrale et puis moi, je vais aller faire quelques conquêtes ailleurs. Ça ne s'est pas terminé comme ça, bien évidemment. Et on voyait que la rivalité entre la Prusse et la France, elle est grandissante. Ce qui fait qu'au début des années, enfin, donc au début 70, la paix semble régner, je dis bien semble régner. Et puis, donc, par un hasard de l'histoire. Le roi d'Espagne meurt. Et à cette époque-là, l'héritier du roi d'Espagne était pris parmi une des grandes familles princières de l'Europe. Et Bismarck va agir de manière à ce que ça soit un Hohenzollern, donc un Allemand qui devienne roi d'Espagne. Et Napoléon III se trouve pris en étau, un peu comme à l'époque de Charles Quint. Et c'est ce qui va déclencher cette guerre.
En même temps, lui n'est pas trop décidé, il est plutôt poussé par Eugénie.
Alors, Eugénie, d'une part, les grands militaires. On ne parle pas à l'époque du lobby militaro-industriel, mais il est déjà extrêmement présent, et Charles Weber en fait partie d'ailleurs. Mais il y a la même chose de l'autre côté. Et en fait, ce sont. Parce qu'à un moment donné, le roi de Prusse va dire bah, ok, bon, si Napoléon III ne veut pas que la candidature de Hohenzollern soit validée, on prendra quelqu'un d'autre. Mais Bismarck n'entend pas de cette théorie-là, parce qu'en fait, il veut asseoir le régime, il veut asseoir sa puissance par une victoire militaire contre la France. Et donc, en fait, ils vont créer donc, la dépêche d'Ems, qui est une manipulation. Voilà. Et les Français vont tomber dans un piège. Donc, à un moment donné, Bismarck dit, il suffira d'afficher le chiffon rouge et le taureau français foncera dessus. Et c'est ce qui s'est passé, bien évidemment.
Alors Jean se sent obligé d'aller défendre son pays. Pour lui, c'est un devoir, c'est son sens de l'honneur qu'il...
Alors c'est déjà ça, mais il est polytechnicien en plus. Oui. Et quand vous êtes polytechnicien, vous êtes militaire. Donc à un moment donné, il va devoir partir. Mais de toute façon, oui, bien sûr, c'est le seul de la famille qui va faire cela.
Oui, c'est ça.
Et il part, donc il va se... Ah, il s'engage pas, quoi. Donc il part, il est directement enrôlé dans l'armée. Quoi. Il part dès le début du mois d'août 70.
Oui, il aurait pu attendre un petit peu, mais là, il sait qu'il va devoir y aller, donc
c'est
il y va tout de suite. Alors, donc, il sort bien effectivement de Polytechnique. C'est un homme éduqué, il est plutôt lucide sur les ordres aberrants des militaires. Parce que c'est quand même... Peu de militaires trouvent grâce à vos yeux, quand même.
Ah oui, non, mais là, je veux dire qu'on a parlé de l'incurie de juin 40. L'incurie de juillet 70 ou de août 70, c'est exactement la même.
Hein.
Ah oui, complètement. Oui. Il faut quand même se rappeler de deux choses. Je cite deux choses dans le livre. En juin 70, les militaires français ne voyaient pas du tout la guerre. Et donc, en fait, comme toujours, ils avaient besoin d'argent pour... Et donc, ils ont vendu une partie de leurs chevaux. En se disant, en vendant nos chevaux, on va pouvoir rentrer de l'argent et puis pour pouvoir faire autre chose. Juin 70. 19 juillet 70, c'est la déclaration de guerre. Et il n'y a plus de chevaux. Non. Plus assez de chevaux. Ce qui fait que...
Les Weber s'en sortent bien.
Les Weber s'en sortent bien, puisqu'en fait, donc, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le frère Weber est fournisseur aux armées.
Frère de Charles.
Le frère de Charles. Il, a racheté les chevaux à vil prix en juin. Il va les revendre à prix d'or en juillet. Et à un moment donné, il dit, et le plus rigolo, c'est que les chevaux n'ont même pas quitté leurs écuries. Ils n'ont pas eu le temps de quitter leurs écuries. Voilà. Et cette anecdote est vraie. C'est exactement... Donc, un mois avant la déclaration de guerre, il n'y avait pas un nuage au-dessus du ciel français, concernant la guerre. Quoi.
Enfin, il disait quand même qu'il ne manquait pas un bouton de guerre.
Alors ça, c'était l'arrogance, c'était le maréchal Lebeuf qui était ministre de la guerre et qui disait de toute façon, il peut se passer quoi que ce soit, il ne manquera pas un bouton de guêtre aux soldats. Ouais. Non, il leur manquait des fusils et des cartes.
Oui, bien sûr. Et alors, je disais, donc peu de militaires trouvent grâce à vos yeux, sauf peut-être le général Clinchamp. C'est d'ailleurs le seul général parmi ceux qui ont été capturés qui s'est sauvé, qui s'est échappé.
Oui, alors général Clinchamp, c'est un général que je ne connaissais pas.
Moi non plus, je suis allée voir.
Oui, je ne le connaissais pas. Et c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Alors, je vais faire un peu le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit, moi, l'histoire, je la découvre au fur et à mesure. Mm-hmm. Bon, c'est exactement la même chose, sauf que je suis dans un cadre historique malgré tout, donc je ne découvre pas tout... Et en fait, il s'est passé que... Bon, moi, j'avais à peu près le synopsis en tête et je savais à peu près ce que je voulais faire. Et il s'est trouvé que le général Clinchamp apparaissait systématiquement dans les grandes phases de mon roman. C'est un hasard total, mais il apparaissait systématiquement. Et je me suis dit, je vais le suivre. Et donc, j'ai découvert cet homme que je ne connaissais pas. Et c'est parmi les militaires français, un des rares qui peut trouver grâce à mes yeux. Il y en a deux. Il y a lui, à l'époque-là, et le capitaine Rossel.
Bien sûr.
Qui est un personnage réel, hein, bien
évidemment. Oui, j'ai vérifié, bien sûr. Oui, voilà. Parce que je me disais, j'ai dit, je ne connais pas trop, donc j'ai révisé un peu ma garde-fou.
Et Clinchamp est complètement tombé dans l'oubli, et c'est dommage, parce que c'était quand même un personnage très, très important pendant cette période-là.
Oui. Alors après, la guerre, on sait, c'est le désastre du Soudan, bien sûr. Il y a l'armistice qui est signé à Vincennes. Les Parisiens se refusent à capituler. Essentiellement.
Alors, oui, en fait, l'armistice, donc la défaite de Sedan, c'est le 4 septembre.
Oui.
Donc, dès le 4 septembre, enfin, c'est le 2 septembre, le 4, la République est proclamée, pardon, et les Parisiens vont tout de suite organiser une défense extrêmement forte, extrêmement forte. Les Prussiens assiègent dès le 14 ou 15 septembre et commence le siège de Paris. Et le siège de Paris, ça va être pendant du 15 septembre jusqu'au, on va dire, mi-février 71. Ça va être un chaudron, une cocotte minute qui va commencer à monter en température très très fortement, sachant que le Paris, c'est pas le Paris d'aujourd'hui, bourgeois, bobo. Le Paris de l'époque, il y avait des bourgeois bobos qui étaient déjà dans la partie ouest, mais Paris c'est essentiellement une ville d'ouvriers, une ville pas de paysans, mais vraiment d'ouvriers. Mmh. Et c'est dû principalement aux travaux d'Haussmann. Haussmann donc engagé des travaux gigantesques dans Paris qui ont fait qu'il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont venus. Et la ville de Paris, principalement pour sa partie est et nord-est, était une ville très fortement ouvrière. Donc c'est devenu un chaudron qui a monté en température.
Oui, après c'est la commune.
Et donc c'est la commune. Alors pourquoi la commune? Déjà parce que c'est une période qui m'intéressait. Et surtout, c'est qu'en écrivant le livre, j'ai découvert que les soldats partent à la guerre, il y a un certain nombre de défaites, ils sont faits prisonniers, et à un moment donné, ils sont prisonniers en Allemagne, et au moment de l'armistice, Adolphe Thiers, sent que Paris va devenir extrêmement difficile à gérer, a besoin de soldats. Et à l'époque, il n'y a pas de police, donc il a besoin de soldats, et donc il va passer un deal avec Bismarck. Vous me libérez plus rapidement les soldats et je m'engage à payer les indemnités de guerre le plus vite possible. Et donc les soldats qui étaient prisonniers en Allemagne ou en Suisse, parce que le mien est prisonnier en Suisse, pensaient rentrer, une fois que l'armistice est signé, pensaient rentrer à la maison, tout était terminé. Et en fait non, ils se retrouvent enrôlés dans l'armée de Thiers.
À devoir tuer.
Et donc dans une guerre civile et fratricide, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des grands nombres des communards, donc des militaires communards qui étaient à Paris, c'était des militaires qui avaient combattu avec eux en Lorraine. Donc c'est à la fois une guerre civile, une guerre fratricide. Et ça va laisser... On en parle encore aujourd'hui. Hein,
Bien sûr, oui.
Voilà. Et donc j'avais découvert ça, et donc évidemment, comme j'avais envie de travailler sur cette période-là, je me suis engouffré dedans.
Mmh. Et là, le général Clinchamp va aussi se...
Alors, le général Clinchamp...
S'honorer de ne voilà. pas...
Voilà, c'est un des... Je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, c'est un des seuls généraux qui n'a pas été un boucher.
Oui.
Et ça, c'est pareil, je l'ai découvert un peu par hasard. Et ça, je ne vous cache pas que le jour où j'ai vu ça, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que, bon, évidemment, je n'avais pas du tout envie que mon héros fasse partie des bouchers oui. qui allaient écraser la Commune de Paris. Ce n'était pas du tout reluisant, et je ne savais pas trop comment m'en sortir. Et puis, bon, j'ai acheté pas mal de livres, j'ai lu pas mal de choses. Et à un moment donné, il y a un petit bouquin de Jacques Rougerie, qui est grand, un écrivain, enfin, un historien spécialiste de la Commune. Et à un moment donné, il y a une petite, un tout petit paragraphe où il parle du général Clinchamp. Et dit que le général Clinchamp, c'est justement un des rares généraux qui n'a pas été un boucher pendant la Commune de Paris. Et il fait référence à un autre général, le général Dubarail, qui a écrit ses mémoires. Et donc, je me suis, sur Gallica, donc je suis allé lire les mémoires du général Dubarail, qui explique bien que Clinchamp était un des rares à ne pas avoir fait ça.
Mmh.
Donc ça, c'était plutôt satisfaisant. C'est le hasard, hein, c'est vraiment le hasard, mais j'ai trouvé que le hasard faisait vraiment très bien les choses.
Alors, je ne savais pas, moi, qu'il y avait une partie de l'armée qui avait été oubliée quand ils ont signé le traité. L'armée de...
Ça peut vous rassurer, moi non plus. Moi non plus, je l'ai découvert. En fait, quand l'armistice a été signé... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre de 70, c'est une guerre qui est totalement impréparée. Donc l'armée... alors que du côté prussien, ce n'était pas le cas,
oui,
bien
non,
évidemment. L'hiver 70-71 est un hiver très très dur, très froid. Et une partie donc, des batailles va se situer dans le Jura. Et à un moment donné, donc, le gouvernement donc, va capituler, va demander l'armistice. L'armistice est signé assez rapidement. Et pour une raison qui n'est encore pas complètement explicitée ou expliquée par les historiens, un corps d'armée, une armée, donc l'armée dite de l'Est, n'est pas citée dans le projet d'armistice. Ce qui fait que lorsque l'armistice est signé, cette armée-là est toujours en guerre contre la Prusse. Sauf que la France n'est plus en guerre contre la Prusse. Donc elle se retrouve seule. Elle ne peut plus être alimentée par... Et elle a la chance de se trouver à 10 km de la frontière suisse. Et donc, son général, alors le premier c'est Bourbaki, et le deuxième c'est Clinchamp, vont aller négocier avec les autorités suisses l'autorisation de passer la frontière et d'héberger l'armée française. Les Suisses vont dire oui. Alors... On connaît les Suisses, hein. Donc ils vont bien compter tout ce que ça va coûter. Et la France payera rubis sur l'ongle dans les mois suivants exactement combien a coûté l'hébergement. Ça a duré quand même à peu près 3 mois, quoi.
Ben
deux
oui,
mois et demi
sûr,
à 3
oui.
mois. Voilà.
Oui, puis c'est une armée complète quand même. Donc
c'est une armée complète, à peu près 80 000 hommes. Donc c'est quand même, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut les loger. Il faut
les soigner.
Les soigner, voilà.
Voilà.
Je vous vois arriver.
Non, j'allais... Si, parce que Jean
c'est
est
un roman,
blessé.
C'est un roman.
Bah voilà, oui. Jean est blessé. Il est donc soigné par une charmante infirmière. Voilà.
Exactement. Anna.
Anna.
Anna, ouais. L'idée, c'était... Je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Je n'ai pas fait un roman de guerre. Pas
non,
du tout.
Pas du tout.
Il y a à peine évoqué une scène de bataille. Et encore, que je dis évoqué, c'est quelques phrases. Je n'ai pas du tout envie d'évoquer... Ce n'est pas un roman de guerre, mais c'est un roman qui se passe pendant la guerre et qui décrit... la vie d'une génération. J'ai voulu vivre, décrire la vie d'une génération, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui avaient entre 20 et 35 ans à cette période-là.
Mmh.
Voilà. Et donc, il va rencontrer Anna, qui a son âge, évidemment.
Voilà.
Mmh.
Donc,
Suisse.
En Suisse aussi, les femmes n'avaient pas le droit d'aller en fac de médecine. Elles ne pouvaient
bien
être infirmières.
Ah, oui. Elles ne pouvaient être qu'infirmières.
Alors, l'option... Le titre de votre roman, c'est après le désastre donc de Sedan, de Metz et tout, et puis le traité de Versailles, l'obligation pour les habitants des provinces annexées, donc l'Alsace et une partie de la Moselle. La Moselle actuelle, hein, oui. De choisir soit de rester et de devenir allemand, soit de choisir de conserver sa nationalité française et de partir sans rien. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, j'ai vérifié, peu ont choisi la France, en fait.
Oui. Alors, en fait... Par défaut, vous deveniez allemand.
Oui.
Il fallait le manifester, il fallait montrer son attachement et dire « je veux rester français ». Et donc, il y avait un droit qui a été ouvert dans le traité de Francfort, qui s'appelait le droit d'option. Et Nancy, je vais parler après de Nancy dans cette affaire-là, parce que Nancy a été très fortement impactée. Donc, le droit d'option. Et les gens donc, pouvaient opter. Ils avaient jusqu'au 1er octobre 72, donc à peu près 18 mois pour opter. Et pour, mais lorsque vous optiez, vous deviez quitter la France. Vous deviez quitter les régions annexées, c'est-à-dire l'Alsace actuelle, une partie du territoire de Belfort, pas tout à fait, et puis la Moselle actuelle. Mmh. Alors, vous êtes médecin, instituteur, militaire. Quitter, c'est pas un problème. Vous trouverez toujours un poste de l'autre côté de la frontière. Vous êtes paysan, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Et surtout, si vous êtes propriétaire de votre terre. Si vous êtes manouvrier, bon, vous serez manouvrier de l'autre côté, ça ne pose pas de problème. Mm-hmm. Mais un paysan... Et donc, du coup, on estime qu'à peu près 15% de la population a opté et a migré.
Oui. Bon, Nancy a bénéficié de ce choix.
Alors, je vais dire quelque chose. À chaque fois, je fais floresse quand je dis ça à Metz, évidemment. Quand je dis ça à Nancy, un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1840-1850, Nancy était une ville de deuxième catégorie par rapport à Metz. Mmh. Et Nancy commençait à prendre son essor avec la sidérurgie aux entours de Pompéi, et ainsi de suite et tout. Mais était encore au niveau économique derrière Metz. Et il y a énormément d'optants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des gens qui étaient diplômés, d'énormément d'optants qui ont passé la frontière, la nouvelle frontière, et sont venus naturellement à Nancy. Mmh. Et il y en a deux célèbres, hein, Dôme et Galais.
Ben, bien sûr.
Sont des optants. Et il y en a d'autres, bien évidemment. Mmh. Dreyfus, la famille Dreyfus aussi, hein, était alsacienne, et ses parents ont opté de la même manière. Mmh. Et donc, ça fait la richesse de Nancy.
Alors, on ne vous dira pas si Jean a opté pour la nationalité allemande ou s'il a choisi de rester français. Il faudra lire le roman, hein, bien sûr. Alors, ce traité porte aussi en germe les guerres du XXe siècle qui vont en découler. Parce que le sentiment de revanche va être encore plus exacerbé. Surtout qu'en plus, les Allemands ont été un petit peu durs au niveau financier. France est exsangue. Hein.
La France est exsangue, mais la France avait énormément de richesses. L'indemnité de guerre était de 5 milliards de francs or, et les 5 milliards ont été payés plus vite que prévu. Et c'était une condition pour l'évacuation. Ce que les gens ont oublié, ça, moi je ne le savais pas non plus, c'est que l'armée prussienne évacuait les départements occupés au fur et à mesure du remboursement. Et donc, tant que ce n'était pas remboursé, il restait une partie, évidemment la partie la plus au nord et à l'est, enfin, qui est maintenant un peu à l'intérieur des frontières. Et donc la France a payé rubis sur l'ongle. Alors, cette histoire de revanche, moi, c'est ce que j'apprenais à l'école, c'est ce qu'on a tous appris à l'école, le culte de la revanche, et ainsi de suite et tout. C'est pas tout à fait comme ça, quand même, que ça s'est passé. Là, je suis en train de travailler, donc le tome 1 s'arrête, je peux le dire, s'arrête en 1872, au mois d'avril 72. Mmh. Et le tome 2 va démarrer en juillet 1914. Et l'idée, donc, de cette saga, c'est de suivre, vu le titre, vous comprenez bien qu'une partie de la famille va rester, une partie va opter. Et donc, je vais suivre les deux branches familiales en parallèle des deux, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Enfin, bon.
Mais c'est vrai que c'était...
La revanche. Et donc, à l'école, on nous apprenait que les Français avaient le sentiment de la revanche, et ainsi de suite. Alors, c'était cultivé par les nationalistes, bien évidemment.
Bien sûr, oui.
Mais en fait, le sentiment de la revanche, j'ai lu pas mal d'articles, au début de l'année 1914, c'était plus de tout ça, quoi. Le Français qui avait 20, 30 ou 40 ans, qui n'avait pas connu ce qui s'était passé avant 70, statistiquement parlant, pour parler comme aujourd'hui, il n'y avait pas cet esprit de revanche. Hein. Donc cet esprit de revanche, on l'a aussi monté en épingle à un moment donné. Hein. Mm-hmm. Il fallait impérativement le cultiver. Et ça disparaissait tout doucement. De même qu'on a beaucoup dit que les Messins, les Mosellans avaient gardé l'esprit français et que pour eux, ça a été une libération en 1918. C'est vrai qu'en partie, il y a beaucoup de Mosellans qui étaient français d'origine, qui finalement s'étaient tout à fait adaptés à la nouvelle situation.
Quoi. Ils n'étaient pas tous dits malgré nous.
Alors, les malgré nous, c'est après. C'est
oui,
la...
c'est ça.
Mais ce n'était pas tous des malgré nous, bien sûr. Oui, tout à fait.
Du côté allemand aussi, après 14-18, c'était la même chose pour la revanche, quoi.
Ah oui. Ah. Mais alors là, c'est
cultivé, ça aussi.
L'histoire du coup de poignard dans le dos, c'est une... Alors, ce n'est pas une légende, parce que ça a été vraiment... Mais en fait, ça n'est l'œuvre que de quelques-uns, quoi. Ça n'est l'œuvre que de quelques-uns. Dont un qu'on connaît malheureusement trop bien, quoi. L'allemand moyen, il ne voyait pas ça du tout. L'allemand moyen voyait la situation économique qui était une catastrophe. Alors, il y a quand même beaucoup d'Allemands qui n'ont pas bien compris l'histoire de la défaite. Hein. Celle de 1918, je parle cette fois-ci. Hein. Mm-hmm. Mais bon,
Ah, mais faut attendre le tome 2, hein,
bien sûr. Oui, bah, je suis pas un historien. L'idée, l'idée, c'est pas de faire. Par contre, ce que j'ai prévu de faire, c'est que cette histoire de l'option, je pense. Enfin, moi, je suis parisien d'origine, donc je connaissais pas cette histoire d'optant. Je l'ai découverte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Lorrains aujourd'hui qui ont ça en tête. Et par contre, quand on regarde ce qui s'est passé en novembre 1918, quand on est à l'école, on va à l'école, comme tous, 11 novembre, l'armistice, 29 juin 1919, traité de Versailles, tout est bien, qui finit bien, l'Alsace-Moselle redevient française et on n'en parle plus. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
Pas vraiment, non, c'est sûr.
Et notamment pour les Mosellans qui étaient issus d'Allemands avant 1870. Ceux qui étaient issus de citoyens français d'avant 1870, ils ont retrouvé des droits. Les autres, c'était un peu plus compliqué.
Oui, bah bien sûr. Donc, il y a quand même toujours une espèce de petit sentiment de revanche.
Je ne sais pas si c'est le mot de revanche. Encore que. Si j'ai encore quelques minutes.
Deux minutes.
Au cours des salons littéraires, là, j'ai rencontré un couple. Alors, quand je dis un couple, c'est un monsieur et son fils. Mmh. Ce n'est pas un monsieur et sa femme. Qui m'ont raconté un peu leur vie, et eux étaient issus d'une famille allemande avant 1870, mais des Allemands qui sont venus coloniser. Parce que comme toujours dans toutes les annexions, il y a toujours le pays vainqueur qui amène ses propres citoyens. On était en 2023 à l'époque, et le souvenir est encore très fort dans leur famille. Très très fort dans leur famille, notamment le fait d'avoir été expulsés en novembre 1918, parce que ces gens-là ont été expulsés.
Bien sûr.
Et dépouillés de leurs biens. Enfin, ça a été... voilà.
Mais bon, je rassure nos auditeurs, c'est un roman. Ça se lit comme un roman. Donc, voilà. Et on a hâte. Moi, j'ai hâte de lire le deuxième tome, parce que moi, je veux savoir ce qui va arriver.
Moi aussi, je suis en train de... Je suis dessus, là.
D'accord.
Est-ce que nos généraux vont être plus perfectibles est meilleur qu'en 70.
Est-ce que vous connaissez l'origine du mot limogé?
Non.
Eh bien, la déclaration de guerre, c'est le 2 août 1914. Rapidement, la France se trouve dans la même situation qu'au mois d'août 1870, c'est-à-dire totalement débordée. Les généraux étaient à peu près au même niveau. Mmh. Et donc, le gouvernement français a pris la majorité des généraux. A dit maintenant vous êtes destitué et on va vous mettre dans un endroit particulier, on va vous parquer en quelque sorte, et puis on va faire la promotion des gens qui sont en dessous, des colonels qui sont en dessous. Et cet endroit, c'est Limoges.
D'accord.
Et ces fameux généraux, on les a envoyés
les
à Limoges.
Mots, toujours
l'expression,
une origine.
D'où l'expression limogé. Et un des colonels qui a bénéficié de cette... s'appelait Philippe Pétain. Et donc sa promotion s'est trouvée toute naturelle quand ses chefs ont été limogés.
D'accord.
Et il y aura les mêmes en 40.
Oui. Merci Patrick. Ah non, là c'est fini, je suis désolée, c'est fini. On en parlera la prochaine fois.
Bon d'accord, alors je me demande s'ils n'avaient pas des instructeurs russes, parce que tu sais, ils sont tellement bons que...
On en parlera la prochaine fois.
La prochaine fois.
Alors merci à Marie-Thérèse Vinager d'être venue nous présenter son roman Le disparu de Brun, publié en auto-édition. Merci à Patrick Vanet, venu nous présenter son roman historique L'option, publié chez L'Harmattan. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle La ville jumelée. Merci à Tim qui est à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir Maya.